Seigneur, tes pensées sont plus élevées que les nôtres et ta manière de faire est bien meilleure que la nôtre. Tu donnes de l'espoir aux désespérés et la force aux faibles. On te prie, Seigneur, que tu puisses renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées, comme nous disent les Saintes Écritures. Aide-nous aujourd'hui à déposer à tes pieds chaque pensée qui nous rend captive. Rappelle-nous que tu es avec nous, que tu vas continuer à nous instruire, nous diriger. Conseille-nous pendant que nous méditons ta parole de Dieu et veille par ton Esprit Saint appliquer ces vérités que nous allons voir ce matin, les appliquer à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Hey, ce matin, je suis vraiment excité parce qu'on commence une nouvelle série de messages qui va couvrir tout l'été, qui s'intitule, le thème de ce message, c'est « Mon personnage préféré ». Maintenant, on s'entend, on est tous d'accord que notre personnage préféré, c'est Jésus, évidemment. Mais après Jésus, certains personnages de la Bible nous livrent de profondes leçons, de bons principes, car Dieu s'est servi de ces personnes pour nous aider à mieux le connaître. Parfois, ces personnes sont des femmes, parfois sont des hommes. Et on va avoir l'occasion d'entendre 10 prédicateurs pendant l'été, au cours des prochains mois, qui vont choisir l'un de leurs personnages préférés. Et je remercie le Seigneur vraiment pour cette brochette de prédicateurs. On est vraiment gâtés ici au Sentier. Vous savez, certaines églises à travers le Québec n'ont pas ce luxe d'avoir des prédicateurs, des personnes formées à pouvoir enseigner la parole de Dieu avec fidélité. Cette semaine encore, on nous demandait, une église nous demandait de leur envoyer des enseignants, des prédicateurs pour les aider. Ici, on est vraiment gâtés, on est bénis. D'ailleurs, même récemment, on a donné un cours de prédication. Et cet été, vous auriez donc l'occasion d'entendre même de nouveaux prédicateurs ici à l'église. Et moi, ça m'excite vraiment, là. Vous savez, dans les Écritures, il y a plus de 6000 personnages. Et ça fait du monde, ça. Alors, les gars ont le choix, là. Les gens ont le choix. Alors, vous aurez l'occasion d'entendre 10 prédicateurs qui ont choisi l'un de leurs personnages préférés. C'est pas nécessairement le personnage préféré. Ça peut être l'un de leurs personnages préférés. Et nous enseigner, non seulement sur cette personne, mais nous enseigner aussi ce que Dieu nous enseigne à travers un épisode de leur vie. Mais plus important encore, on aura l'occasion de voir comment ces personnages murmurent le nom de Jésus. Vous savez, toute la parole de Dieu nous pointe vers Jésus. Maintenant, on a fait un spécial pour cette nouvelle série. Ce qu'on va faire, chaque semaine, on va mettre des indices sur nos réseaux sociaux, soit Facebook ou Instagram, on a un compte Instagram. Et puis, on va mettre des indices afin que vous puissiez deviner quel est le personnage qu'on va couvrir la semaine qui s'en vient. D'accord? Alors, vous pourrez répondre sur les réseaux sociaux qui vous pensez être cette personne qu'on va toucher la semaine, le dimanche qui vient. Et c'est moi qui ai le plaisir de vraiment commencer cette nouvelle série. Alors, je suis bien content. Et j'aimerais commencer en disant ceci. Quand j'étais jeune, mes parents avaient une télévision. D'accord? Mes parents avaient une télévision. Oui, la télévision existait quand j'étais jeune. Mais je vais être honnête avec vous, ça faisait pas très longtemps que la télévision couleur existait. Alors, on avait cette télévision-là chez nous. Et à cette époque, il n'y avait pas vraiment de câble, pas de fibre optique et tout ça. Alors, l'image était pas tellement belle. Il y avait beaucoup de neige, comme vous pouvez voir, sur l'écran. Parfois, on donnait des coups sur la télévision. Puis là, tu devenais de plus en plus frustré. Alors, les coups étaient de plus en plus forts. Et des fois, tu réussissais à trouver, à voir des personnages à travers le nuage. Alors, ce qui est arrivé, les experts ont réalisé que ça allait mieux avec une antenne. Alors, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qu'on avait chez nous. Une antenne de télévision. Les cheveux blancs dans la salle. Savez-vous comment on appelait cette antenne? Hein? Les oreilles de lapin. C'est de même qu'on appelait ça. Les oreilles de lapin. Alors, si tu voulais augmenter la qualité, tu mettais ces antennes-là Mais encore là, c'est très frustrant, parce que tu prenais les antennes, tu jouais avec, tu essayais de déplacer, puis des fois, c'était dans le coin de la TV, juste en arrière. Puis là, tu sais, comme la barre là-bas, puis ça marche pas, puis peut-être au milieu de l'émission, il fallait que tu changes, puis tu changes l'antenne. Hey, c'était vraiment frustrant. Maintenant, la technologie avance. Et si tu voulais vraiment augmenter la qualité de la réception, ça prenait un upgrade, une mise à niveau. Et c'était toute une avancée technologique. C'était le Apple de l'époque. C'était les oreilles de lapin version 2.0. Ce que tu faisais, c'est que tu mettais ça ici, en haut de l'antenne. La laine d'acier. Hey, ça, là, t'étais au top des tops. Là, c'est une avancée technologique extraordinaire. Et là, tu jouais avec la laine d'acier, puis tu laissais ça, tu sais, puis... mon Dieu, ça marchait pas tellement bien. C'était la télévision moderne, ça. Mais il y avait toujours un certain degré de parasite, et plus il y en avait, plus l'image était masquée par la neige. Et le son s'était noyé par un sifflement. Là. Tu t'en souviens? Là, comme... Ah, c'était frustrant. Tu avais beau tripoter l'antenne autant que tu voulais. Parfois, les interférences t'empêchaient de suivre ce que tu voulais regarder. Et là, tu abandonnais parce que tu étais carrément frustré. Maintenant, vous savez que notre foi en Jésus-Christ est parfois comme ces vieilles TV. On a été créé pour être connecté avec le Seigneur Jésus. Malheureusement, l'une des conséquences depuis la chute, le mal, la désobéissance à Dieu dans le monde, nous avons été séparés de Dieu, déconnectés. Mais grâce à Dieu, Jésus est venu dans le monde, il s'est offert en sacrifice sur la croix pour nous sauver des conséquences du péché et en prenant sur lui, sur ses épaules, le châtiment que l'on méritait. Alors, par la foi en Jésus-Christ et ce qu'il a fait sur la croix, nous pouvons être sauvés, réconciliés avec Dieu et reconnectés avec Dieu. Mais il arrive parfois que notre foi rencontre de l'interférence. Nos vies sont remplies de parasites et des sifflements qui nous empêchent de présenter autour de nous une image claire de qui est Dieu. Et ce qui arrive parfois, c'est qu'il y a des personnes qui nous le mettent sur le nez, des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, parfois même agressifs à l'endroit de la parole de Dieu ou même de Jésus. Ils vont souligner cette faiblesse que nous avons parfois d'avoir ces interférences dans notre vie, si bien qu'on l'image qu'on aimerait transmettre de Dieu n'est pas tout à fait aussi claire. D'ailleurs, vous avez déjà sûrement entendu cette phrase, « Ah, moi, je ne vais pas à l'église. Pourquoi? Ah, c'est plein d'hypocrites là-bas. » Eh bien, certaines personnes vont même essayer de nous influencer à abandonner la foi. Et que c'est pas sérieux tout ça, ça donne absolument rien. Maintenant, ce matin, on va s'arrêter sur l'un de mes personnages préférés. Il s'agit d'Ézéchias. C'est l'un des rois de Juda dans l'Ancien Testament. On parle à l'époque de 1600 avant Jésus-Christ. Ézéchias a vécu à l'époque du prophète Ésaïe. Au cours de ce ministère, Ésaïe va connaître 4 rois. Ésaïe est considéré comme le prophète de la rédemption, le prophète du salut. On trouve plus de prophéties dans le livre d'Ésaïe, qui a quand même été écrit dans l'an 700 quelque avant Jésus-Christ. On trouve plus de prophéties dans le livre d'Ésaïe que dans toutes les autres, les prophéties concernant le Messie qui vient, que dans tous les autres livres de l'Ancien Testament, à l'exception des psaumes. Ésaïe est la révélation sur Jésus la plus complète dans l'Ancien Testament, tellement d'ailleurs qu'on l'appelle l'Évangile selon Ésaïe. D'ailleurs, les prophéties sur le Messie Jésus du livre d'Ésaïe est l'une des grandes preuves que la Bible est la parole de Dieu, car Ésaïe a vécu quelques 724 ans avant Jésus. Et quand on examine les nombreux passages qui évoquent le Messie, il est clair qu'il pointe vers Jésus-Christ. Jésus a parfaitement accompli ses prophéties. On le voit dans le Nouveau Testament. Alors, on réalise que ces prophéties constituent un argument irréfutable en faveur de l'inspiration divine des Écritures saintes. Maintenant, le thème du livre d'Ésaïe, on pourrait le résumer ainsi, est la foi dans le Sauveur. Fais confiance à Dieu. Maintenant, c'est une chose d'avoir confiance à Dieu, d'avoir la foi quand tout va bien autour de toi. Mais c'est pas la même chose quand tu as un roi ennemi qui s'en vient attaquer ton pays et tu es le roi de ce pays-là. Et c'est ce qui arrive justement avec Ézéchias. Il était le roi de Juda. Surtout lorsque ce roi ennemi s'appelle Sanchérib et qui est le roi de la plus grande puissance militaire de l'époque. L'histoire d'Ézéchias nous montre clairement que nous pouvons faire confiance à Dieu. Ça va ressortir très fort. Et le message que le Seigneur veut nous communiquer à travers cet épisode de la vie d'Ézéchias, c'est vraiment une affirmation qui est puissante sur sa fiabilité. On peut se fier sur Dieu. On peut toujours compter sur lui. Et ce qui ressort, c'est la grandeur et la puissance de Dieu. Et on ressent aussi l'insignifiance de l'homme face à cette puissance, cette majesté, cette sagesse. On prend l'histoire alors que le roi assyrien vient attaquer toutes les villes fortes de Juda. L'Assyrie se trouve à l'est de Juda, qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Les Assyriens étaient une armée très agressive, d'ailleurs très reconnue pour être l'une des armées les plus violentes. Ce qu'ils faisaient aux prisonniers, c'était terrible. Ils coupaient le nez des prisonniers, coupaient les oreilles, les bras, les jambes. Et d'ailleurs, ils les accrochaient sur des poteaux très élevés afin que les gens qui passent puissent voir ces morts accrochés. C'est terrible. On prend la lecture alors que le roi de la Syrie attaque les villes fortes de Juda et s'empare de la dernière ville avant d'arriver à Jérusalem, la dernière ville forte qui avait pour but de protéger Jérusalem, et ça s'appelle la ville de Lachish. On va prendre la lecture dans Ésaïe chapitre 36. Maintenant, cet épisode de la vie d'Ézéchias et la menace du roi de la Syrie va se dérouler à travers deux chapitres. On n'aura pas le temps de tout lire, puis il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Mais on va se contenter au début juste de lire les trois premiers versets d'Ésaïe chapitre 36. Et on va continuer à lire d'autres passages plus loin. Mais on va attendre. On va commencer seulement par ces trois premiers versets. D'accord? Pour nous mettre dans la situation ici. Ésaïe 36, verset 1. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Le roi d'Assyrie se trouvait alors à Lachish. Il envoya à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké. Rabshaké, c'était un des officiers du roi. Alors il envoie Rabshaké avec une puissante armée. Celui-ci s'arrêta à l'aqueduc du réservoir supérieur sur le chemin du champ du teinturier. Alors le chef du palais royal, Eliakim, fils d'Ilkija, se rendit vers lui avec Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joach, fils d'Azaph. Arrêtons la lecture juste ici en ce moment-là. La ville de Lachish était une des villes fortes. Elle avait pour but de protéger la ville de Jérusalem où se trouvait le roi de Juda, Ézéchias. Maintenant, ce passage vient de nous dire que le roi d'Assyrie vient de s'emparer de la ville de Lachish. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a une autre preuve de l'exactitude de la Bible. Parce que les archéologues ont trouvé des tableaux de cette victoire dans le palais du roi. Cette victoire assyrienne à Lachish était tellement importante pour le roi assyrien, Sanchérib, que lorsqu'il est retourné à son palais, une fois la guerre finie, il a fait tailler l'histoire de cette campagne militaire sur les murs de l'une des plus grandes pièces de son palais, qui s'appelle le frieze. On appelle ça des bas-reliefs de grandes murailles en pierre taillée sur les murs du palais. C'est comme une immense bande dessinée. Et cette victoire fut inscrite avec les moindres détails, étape par étape. Il était vraiment fier de cette victoire. Lachish était l'une des villes les plus importantes géographiquement parlant. C'était l'endroit qui devait protéger le chemin qui menait vers Jérusalem. Mais cette ville tombe entre les mains du roi de la Syrie. À partir de cette ville, l'armée assyrienne monte vers Jérusalem. Puisque le chemin est ouvert, il n'y a plus de défense. Ézéchias est maintenant vulnérable et aux yeux de tout le monde, c'est comme s'il est fait. Comme stratégie militaire, le roi d'Assyrie va envoyer l'un de ses officiers, comme on vient de voir, du nom de Rabshaké, et il va parler au chef de Juda, afin les représentants du royaume, du roi, afin qu'ils se rendent. À ce point-ci, c'est une guerre psychologique. C'est une guerre de mots. Et voici ce qu'il va faire. L'officier utilise trois accusations, ou trois critiques contre la foi en Dieu pour intimider le roi Ézéchias et le peuple de Jérusalem à se rendre. Il affirme, en fait, que leur foi est incohérente, inefficace et erronée. Ça ne sert absolument rien. Le siège militaire est donc aussi une attaque spirituelle. Par la grâce de Dieu, ici à Gatineau, on ne vivra probablement pas, et on l'espère, jamais un siège militaire. Mais on est quand même confronté à la même guerre de mots. On rencontre les mêmes critiques contre la foi. Ces critiques peuvent venir de collègues de travail, des voisins, des familles, des membres de notre famille, des voisins. Mais ça peut venir aussi de notre cœur, parce que parfois on a des doutes, n'est-ce pas? La bataille ne s'arrête jamais. L'apôtre Paul nous dit d'ailleurs que nous sommes dans une guerre spirituelle. Alors ce passage nous donne l'occasion de nous préparer afin que par la grâce de Dieu, on puisse tenir ferme. Alors regardons les trois critiques sur la foi en commençant avec la première. La foi en Dieu est incohérente. Versets 4 à 6. D'accord? On continue la lecture, on reprend ça au verset 4. Rabshaké leur annonça, « Transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte. Tu l'as pris pour soutien, ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Alors, la foi en Dieu est incohérente. En d'autres mots, Ézéchias, tu dis que tu mets ta confiance en Dieu, mais tu vas chercher de l'aide en Égypte. T'es incohérent. Maintenant, il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que son peuple fasse des alliances avec les autres pays. C'est qu'ils allaient être influencés par les sectes et les faux dieux des autres pays, et ils allaient s'éloigner du vrai Dieu, le Dieu de la parole de Dieu. Et c'est arrivé juste avec le père d'Ézéchias, l'ancien roi, Akaz. Rabshaké a raison. L'Égypte n'est pas digne de confiance. Au chapitre 30, juste avant, chapitre 30, le Seigneur avait averti son peuple qu'une telle alliance était insensée. Ils auraient dû se fier à lui seul. Dieu avait promis de prendre soin d'eux, de les protéger, de les garder, mais ils n'ont pas écouté. Rabshaké remet donc en question leur dévouement et veut amener le peuple de Juda à douter de son engagement envers le Seigneur. Dans un autre livre des Écritures, qui raconte essentiellement la même chose, mais donne d'autres détails aussi, dans 2 Chroniques 32, on voit qu'Ézéchias a fait des préparatifs quand même, raisonnables. Il sécurise l'approvisionnement en eau de la ville, en construisant des murs aussi, puis en stockant des armes. Mais il a continué à conclure une alliance avec l'Égypte. Et c'est la raison que Rabshaké se moque de lui. Maintenant, ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas parfaits. On va chuter. On va tomber. On va parfois donner un mauvais témoignage. Notre foi va parfois être incohérente. Mais Dieu nous montre quoi faire quand ça nous arrive. C'est de reconnaître humblement nos échecs. Nous avons ce beau passage dans 1 Jean 1,8 qui dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, on se trompe nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » C'est ça que le Seigneur veut, tout simplement. Parfois, on traîne de la culpabilité pendant des années. On ne se sent pas à la hauteur. On se dit « Je ne suis pas un bon chrétien. » Et on traîne ça et c'est décourageant. Mais ce qu'on a simplement besoin, c'est de confesser ses manquements à Dieu et il nous pardonne. C'est fini. Vivons dans la paix du Seigneur, nous sachant pardonner. Ne traînons pas ces fardeaux de culpabilité. Ne perdons pas la joie de notre salut. Maintenant, oui, notre foi est parfois incohérente, mais vous savez quoi? Dieu ne l'est pas. Il est toujours le même, toujours parfait, change pas. Quelle erreur de refuser de venir Jésus en raison de l'incohérence des chrétiens. Jésus, c'est Jésus. On invite les gens à venir à Jésus, pas à nous. Jésus, lui, il est le même, il change pas. Dans Hébreux 13, 8, ça dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Alors, mettons notre confiance en lui. Il change jamais. Ce qu'il dit, il le fait. La seconde critique est « La foi est inefficace ». C'est le genre de critique qui dit « Ça change rien, ça marche pas ». Rabshaké essaie de semer cette idée dans l'esprit des habitants de Jérusalem. « Votre foi marche pas. Elle est inefficace. C'est un citron. Abandonne ça. » Tout d'abord, Rabshaké essaie de leur faire peur en leur faisant miroiter les conséquences d'un siège militaire qui serait prolongé. En d'autres mots, Rachaké essaie de leur dire, écoute, moi, on peut rester ici très longtemps, là, comme l'armée, là, proche de votre ville. On peut rester très longtemps, jusqu'à temps que vous n'ayez plus rien à manger, vous allez crever de faim, puis vous allez abandonner, vous allez vous soumettre, là. On peut faire ça, on est capable de le faire, on a les ressources pour le faire. Maintenant, regardez bien son argument en verset 12, je vous avertis tout de suite, c'est pas très chic comme image, mais l'idée, c'est qu'on peut rester ici longtemps et vous n'aurez plus rien à manger. Verset 12. Est-ce que ton Seigneur est à toi? Est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Rachaké veut leur faire peur. Il parle comme s'il n'y avait pas d'échappatoire possible. Il prétend qu'Ézéchias les induit en erreur parce que la foi, ça ne marche pas. Verset 13, alors Rachaké prit position et cria à pleine voix en hébreu, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas, en effet. Il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous emmène pas à vous confier en l'Éternel en disant, « L'Éternel va nous délivrer et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Il donne l'impression que la confiance en Dieu, c'est entièrement l'idée d'Ézéchias, puis ça marche pas, là. Puis qu'il essaie de contraindre le peuple à croire au Dieu des Écritures. Rachaké leur propose une alternative. Verset 16, il dit, n'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi de Syrie. Faites la paix avec moi. Sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite, je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Ce qu'il est en train de dire, essentiellement, c'est que mon roi propose bien meilleur que ce que vous avez. Il leur promet un raccourci vers tout ce qu'ils désirent. C'est plutôt, placez plutôt votre foi dans le roi d'Assyrie et il vous emmènera dans un pays abondant. Maintenant, à première vue, cette relocalisation peut sembler bonne, mais la stratégie assyrienne consistait à disperser les gens dans différentes parties de l'Empire romain, dans différentes parties de l'Empire de l'Assyrie, avec d'autres réfugiés, afin qu'ils perdent leur identité et tranquillement perdent leur foi dans le Dieu des Écritures. Rachaké termine son discours dans les versets 18 à 20 avec cet argument. Aucune autre foi n'a permis à une nation de résister au roi d'Assyrie. En d'autres mots, toutes les religions sont pareilles et ça fonctionne pas. C'est ça son argument, là. Il dit au verset 18, qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera. Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sépharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma domination? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination pour que l'Éternel, lui, puisse en délivrer Jérusalem? » Maintenant, comme beaucoup de gens aujourd'hui, il semble supposer que toutes les religions sont identiques, sont pareilles. Voici le point qui est en train de se lever ici. Si les autres religions, ça n'a pas marché, pourquoi la tienne, ça marcherait? Nous, on connaît la réponse. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Il est le Tout-Puissant. Jérémie 32, 17 dit, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Apocalypse 1, 8, le Seigneur dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Quelle a été la réaction d'Ézéchias? Bien, ça a été vraiment intéressant parce que les gens se sont tus, personne n'a parlé des représentants d'Ézéchias, ils n'ont rien dit, c'est l'ordre qu'ils avaient reçu d'Ézéchias. Alors, ils retournent voir Ézéchias. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont commencé à prier, ils ont fait appel au prophète Ésaïe pour qu'il vienne. Alors, quelle a été la réponse du Seigneur? Très courte. Chapitre 37, verset 6, dit ceci, « Voici ce que dit l'Éternel. » Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Est-ce que tu n'es pas impressionné, là? Maintenant, Gardez bien à l'esprit le prochain verset, le verset 7, parce qu'on va y revenir tantôt, d'accord? Voici ce que dit le verset 7. Je vais mettre en lui, alors c'est Dieu qui dit ça, je vais mettre en lui un état d'esprit tel que sur une nouvelle qu'il va recevoir, il va retourner dans son pays, et là-bas, je le ferai tomber par l'épée. Alors imaginez, là, la plus grande puissance militaire, quelle ironie de savoir que c'est dans son pays même qu'il va mourir. Je vais m'arranger. Dieu dit, je vais m'arranger que le roi d'Assyrie retourne chez eux, et c'est là que je vais le faire tomber. La parole de Dieu prononcée à Ézéchias met tellement en évidence sa puissance, son autorité suprême sur toute chose. C'est vraiment fascinant. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le Proverbe 21:1 qui dit, « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de Dieu. Il l'oriente comme il le désire. » Dieu fait ce qu'il veut. Le Seigneur leur dit simplement de cesser de s'inquiéter. Son message est très simple. Encore une fois, fais-moi confiance. Je peux m'occuper du roi d'Assyrie, toute la gang, toute la troupe. Et exactement comme le Seigneur l'avait dit, le roi d'Assyrie a interrompu son attaque et est retourné à Ninive. C'est pour cette raison que la Bible nous dit, si souvent, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Dieu entend, il sait. Le psaume 46, 11 dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. » Maintenant, les critiques sont pas finies. Les deux premières critiques concernaient une foi incohérente et inefficace, mais là, la troisième critique, par exemple, la troisième critique cherche à dénigrer directement le Seigneur en disant à Ézéchias que sa foi en Dieu n'est carrément pas bonne. C'est erroné. T'es dans le champ, Ézéchias. La foi, c'est erroné. C'est comme s'il disait, le Dieu de la Bible, c'est pas le vrai Dieu, là. C'est pas à lui, là. Et c'est vraiment intéressant parce que chapitre 37, verset 10, la fin du verset 10, dit ceci, « Que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas. » Donc là, il y a grand Dieu qui accuse Dieu, là. « Que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Il dirige ce message contre le Seigneur. Il accuse Dieu de tromper Ézéchias et son peuple. Ils supposent que le Seigneur est comme tous les autres faux dieux qui n'ont pas été capables de sauver leur ville. Maintenant, lorsque tu entends ce genre d'attaque contre Dieu, la meilleure chose à faire, c'est de laisser le Seigneur s'en occuper. Et c'est ce qu'Ézéchias va faire. Il va prier. Et sa prière montre comment il connaît Dieu. Sa prière est riche en doctrine. Elle est enracinée dans la parole de Dieu. Et il soulève cinq aspects sur Dieu dans sa prière. Il appelle Dieu, premièrement, le Dieu des armées. C'est vraiment pertinent, n'est-ce pas? Le Dieu des armées. En d'autres mots, il évoque l'omnipotence de Dieu, la puissance suprême de Dieu. Il appelle Dieu le Dieu d'Israël. En d'autres mots, c'est un Dieu personnel, mon Dieu. Il appelle le Dieu qui est assis sur les chérubins et les anges. Ça évoque la souveraineté de Dieu, la sainteté et la présence de Dieu. Il appelle Dieu le Dieu qui est unique et le Dieu créateur. Maintenant, Ézéchias ne prie pas n'importe quel Dieu. C'est pas vrai que toutes les religions sont pareilles, que tous les dieux, on adore tous le même Dieu. C'est absolument faux. C'est faux. Et on entend souvent ça, hein? Ah, c'est juste des différents noms. Mais c'est tout le même Dieu, mais c'est absolument faux. Il prie le Dieu tel qu'il est révélé dans les Écritures saintes. Il finit sa prière en disant au verset 20, Éternel notre Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Maintenant, Dieu répond d'abord en proclamant sa souveraineté sur le roi blasphémateur, qui est le roi de la Syrie, au verset 21-29. Le Seigneur continue sa réponse où il aborde l'avenir de son peuple à Jérusalem. Ça, c'est les versets 30 à 35. Et ça finit avec une victoire tout à fait spectaculaire, puissante de la part de Dieu. Écoutez bien ceci, 37-36, je vous lis ça. l'ange de l'Éternel. Et en passant au singulier, l'ange de l'Éternel, un ange. On sait qu'il y a plusieurs, des milliers d'anges. Un ange, l'ange de l'Éternel, sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sanchérim, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit. Imagine-toi, là, il sort de sa tente, regarde ça, là, puis il retourne chez eux. Un jour où il était, rappelez-vous du verset 7, un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Charetser le frappèrent de l'épée, chez eux, là, avant de se réfugier au pays d'Arara, et son fils Esar, Hadad, devint roi à sa place. Exactement comme Dieu l'avait prédit et l'avait dit. Le roi d'Assyrie est mort comme Dieu l'avait destiné. Maintenant, tantôt, je vous ai dit que les archéologues avaient trouvé des tableaux de la victoire de la ville de Lachish dans le palais du roi d'Assyrie, gravés sur des pierres, des dessins de la victoire. Et quand on marchait dans cette pièce, tu pouvais voir toute la description, vraiment en détail, étape par étape, de la victoire vers Lachish et à Lachish. Et la description sur les murs disait aussi qu'il était arrivé à Lachish, et il arrivait, maintenant la route était ouverte, donc Jérusalem est ouverte. Alors il a dit sur le tableau, il a dit « Ézéchias est dans une cage de moineaux ». Cage d'oiseaux, il est pris. N'oubliez pas ce qu'on a dit tantôt, là. Cette pièce murale donnait les détails, les moindres détails de chaque victoire. Et là, c'est vraiment intéressant parce que, rendu là, tu as toute l'histoire en détail, etc. Et là, tu arrives, il est dans une cage d'oiseaux, puis après ça, ça arrête. Ça arrête. Fini. Quelque chose s'est passé qui a mis fin à l'histoire. On n'a pas la suite sur le mur, mais nous, on a la suite. Elle est écrite, non pas sur un mur, on l'a ici. Chapitre 37. Dans la parole de Dieu. Et on sait c'est quoi qui est arrivé, n'est-ce pas? Dieu est intervenu. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Dieu est souverain. On l'a chanté tantôt. Dieu est tout-puissant. Il fait son œuvre extraordinaire. En 1930, Staline a commandé de sortir toutes les Bibles et les chrétiens de l'ex-Union soviétique. Des millions de Bibles ont été confisquées et plusieurs chrétiens ont été envoyés au Gulag. C'est un camp de prisonniers où la plupart sont morts pour avoir été des, entre guillemets, des ennemis de l'État. À Stavropol, en Russie, cet ordre a été exécuté avec vengeance, avec violence. Mais voilà que des années plus tard, la mission Pouvoir de changer, anciennement Campus pour Christ, là où Robert et Anne-Marie ont travaillé pendant des années, ils continuent comme missionnaires. Eh bien, cette mission a envoyé une équipe sur place à Stavropol. L'histoire de cette ville n'était pas connue à l'époque, c'était inconnu. Mais lorsque l'équipe avait de la difficulté à livrer des bibles qui venaient de Moscou, quelqu'un a mentionné l'existence d'un entrepôt en dehors de la ville où l'on avait placé des bibles confisquées depuis le temps de la Staline. Alors, après beaucoup de prières, un des membres de l'équipe a trouvé assez de courage pour aller voir les autorités pour leur demander si les bibles étaient encore là. Puis effectivement, elles étaient encore là. Alors, la mission a demandé si les bibles pouvaient être retirées et distribuées à nouveau aux habitants de la ville de Stavropol. Et la réponse était oui. Le lendemain, l'équipe est retournée avec un camion et plusieurs Russes étaient là pour aider à transporter les bibles dans le camion. Mais l'un des Russes était un jeune homme qui était venu donner un coup de main, mais il était très agressif, c'était un athée. Il était allé là juste pour avoir la paye pour la journée. Alors que l'équipe est en train de charger le camion avec les bibles, l'un des membres de l'équipe s'est aperçu que finalement le jeune homme avait disparu. Ils ont finalement trouvé ce jeune homme dans le coin de l'entrepôt en train de pleurer. Voyez-vous, il avait volé l'une des Bibles. Mais lorsqu'il a ouvert cette Bible, qui était comme toutes les autres, il a été bouleversé par ce qu'il a vu. Sans le savoir, il ouvre la page intérieure de la Bible qu'il avait volée, et là, il a vu la signature de sa grand-mère. C'était la Bible de sa grand-mère. Parmi les milliers de Bibles dans l'entrepôt, il vole la Bible de sa grand-mère, une femme qui avait été persécutée pour sa foi toute sa vie. On comprend pourquoi il pleurait. Ce jour-là, Dieu s'était révélé d'une façon tout à fait dramatique et spectaculaire à ce jeune homme, un athée. Sa grand-maman avait fort probablement prié pour lui, pour sa famille et pour la ville. Et voilà que ce jeune homme était là, touché, transformé par la même Bible que sa grand-maman chérissait tellement. Notre Dieu est tellement puissant, n'est-ce pas? On peut lui faire confiance. Amen.